25 ans. Et puis, j'ai découvert la première campagne avec Le Secret des Elfes. Alors, ceux qui l'ont fait savent que c'est des campagnes de style allez, Pathfinder. Hein, vous avez un tout petit peu de contexte, beaucoup de donjons, et puis de temps en temps un retournement. Et puis, j'ai découvert le Bac à Sable en me lançant dans les Légendes des Contrées Oubliées. J'ai pas utilisé le système que je trouvais pas super. J'ai utilisé en fait une mouture un peu améliorée de Simulacre. Merci Pierre Rosenthal. Et puis, un jour, j'ai découvert la boîte rouge de Dungeon World et puis tous ces jeux forgiens basés sur l'apocalypse et autres théories du jeu. Et je me suis dit, mais mince, ces gens proposent des outils qui, s'ils ne sont pas nécessairement nouveaux, puisqu'on entend et on à répétition tant qu'on veut sur les forums qu'on a toujours fait comme ça, mais en fait, ces gens-là, ils ont l'avantage de l'avoir écrit noir sur blanc et d'avoir permis à des gens qui, pas nécessairement, s'amusent à théoriser hors de rien, mais de se dire, ah tiens, il y a une réflexion, et ben moi, ça m'a titillé le cerveau et j'ai décidé d'en parler. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est ce que je vais vous dire, en gros. C'est que, moi, mon but, c'est que, en fait, ces outils modernes, ils vont nous permettre d'avoir un récit plus fort dans le cadre de nos parties, avoir une meilleure accessibilité de nos scénarios, parce que c'est gai de lire 20 pages d'un scénario bien écrit, comme le fait Tristan Lhomme, c'est génial. À part que, quand on a fini un scénario de Tristan Lhomme, parfois on se dit, bon, par où on le joue, quoi. Comment on le joue, puisque le début est très bien écrit, et puis la fin part vraiment dans tous les sens, et donc c'est pas toujours facile. Et puis surtout, je pense qu'il y a un intérêt par rapport à la transmission de notre plaisir. Hier, j'ai posé la question du ticket d'entrée. Je pense que justement, nos scénarios, la manière dont on écrit nos scénarios, ça fait un peu partie de ce ticket d'entrée. C'est-à-dire que le type qui veut se lancer dans ce jeu de rôle, il a besoin d'un scénario de base, il a besoin de ce fameux scénario d'introduction. Et si ce scénario d'introduction, il n'est pas clair, il ne lui permet pas tout de suite de comprendre comment est-ce que ça se passe le jeu de rôle et comment avoir cette expérience de jeu intéressante, plaisante, qui donne du plaisir à tout le monde, il ne reprendra pas le jeu de rôle et il ne continuera pas. Donc, je pense que vraiment, améliorer les outils, la manière dont on écrit nos scénarios, quel que soit d'ailleurs le design de notre scénario, vous allez voir, je théorise ce genre de choses, ça va faire beaucoup rire Sébastien Delfino, ça a une importance. Alors, je suis parmi les cadres qui a des enfants, et que moi j'essaie d'ailleurs j'initie mes enfants, et donc il y a un moment donné où quand on écrit un scénario, le temps de préparation du scénario, donc le temps qu'on doit mettre à préparer notre scénario ou nos parties de jeu de rôle, même si par rapport au potentiel ludique, c'est-à-dire le plaisir qu'on va retirer à table, il grandit de manière exponentielle. Donc quand vous commencez à imaginer votre scénario, grosso modo, vous n'utilisez pas de temps, si vous utilisez un peu de temps de cerveau, mais généralement c'est un petit peu comme quand vous faites des mises à jour sur votre ordinateur, ça se passe derrière, et par contre ça ralentit un petit peu votre activité tous les jours, c'est pas très très grave. Et puis vous vous lancez dans un premier jet, vous jetez vos premières idées sur un papier, et ça va très vite, vous créez très vite beaucoup de potentiel ludique, parce que vous mettez tout de suite sur papier les forces de votre scénario. Et puis alors après ça, vous essayez d'écrire un peu un synopsis, quelque chose qui va vous permettre de structurer l'expérience de jeu en elle-même. Là, ça commence déjà à prendre du temps. Et puis alors après, si vous voulez commencer à faire un scénario complet que vous allez balancer sur Internet, voire encore pire, le publier, alors là, je ne vous dis pas le temps que vous allez perdre à ça, les relectures, les éditeurs, les illustrateurs, etc. Tout ça pour un potentiel ludique qui ne va pas nécessairement énormément grandir. Donc moi, je pense que grâce à des nouveaux outils de scénario, en tout cas, ces fameux nouveaux outils que certaines personnes ont mis le doigt dessus, ont mis des mots dessus, parce que moi, je ne suis pas nécessairement très doué avec les mots, je suis géologue, rappelez-vous, je ne suis pas linguiste ou ce genre de choses, je pense qu'il y a moyen, justement, de s'arranger pour que, en tout cas, au départ, on puisse avoir un potentiel ludique qui va augmenter pour le même temps qu'on va consacrer à nos scénarios. J'ai déjà beaucoup trop parlé, alors il faut essayer de dire, il faut mettre en contexte, etc. C'est quoi un scénario? J'étais voir dans le Larousse. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils disent le Larousse? Un scénario, c'est un calvaire, un plan, une scène, dans une pièce de théâtre, c'est ce genre de choses. C'est aussi un document qu'on écrit pour décrire un film qui sera tourné, etc. Vous pouvez lire, j'ai pas besoin de le faire à votre place. Ce qui est intéressant, c'est que ces définitions, elles amènent un certain nombre de concepts. Un des concepts de découpage. Un scénario, c'est quelque chose qu'on découpe. C'est quelque chose qui a des éléments séparés. Il y a un phénomène de description. Dans votre scénario, vous allez devoir décrire les intervenants, qu'ils soient des lieux, des personnages, même des événements. D'accord ? Et puis, il y a du récit. On essaie de raconter une histoire. Non, on fait du jeu de rôle, on essaie de raconter une histoire. Qu'est-ce qu'il raconte ? Et puis alors, il y a le déroulement. Pourquoi ? Parce qu'une partie de jeu de rôle, elle commence à un point A, elle va vers un point B. Alors on verra qu'il y a différentes routes qu'on peut suivre. Il y a des gens qui aiment bien le vol d'oiseaux, et puis il y a des gens qui aiment bien les choses un petit peu plus... Je vais à gauche, à droite, je me promène, je profite du truc. Le paysage est beau, c'est sympa. Et puis il y a carrément les gens qui je me plante au milieu, je sais pas où je veux, oh, par là, allez, hein, ça ira bien comme ça. Et puis il y a cette histoire, mais qu'il y a, là ça c'est plutôt nouveau, ça nous vient des gens qui font de la prospective, hein, donc des gens qui essaient de dire, oh, est-ce que ça sera le futur, est-ce qu'on peut développer des scénarios pour ce futur, et ben, eux ils essaient de voir des prédictions, et c'est fou, parce que nous dans nos scénarios de jeu de rôle, surtout la manière dont on les écrit à l'heure actuelle, on n'arrête pas de dire, et si nos personnages font ça, et si nos personnages font ça, et si... ils torturent l'Ewok. Eh ben, s'ils torturent l'Ewok, eh ben, on fait une prédiction par rapport à ce qu'ils font. Ok, alors, qu'est-ce que c'est un scénario? Merci à Jérôme Larré de nous avoir rappelé que le scénario, ben, c'est quelque chose d'extrêmement divers. Depuis les origines du jeu de rôle, le scénario, il a pris vraiment plein de formes différentes. Hop, et il continue à en créer de nouvelles. Donc, dans un scénario, quels sont les éléments constitutifs? Quelles sont les choses qu'on va retrouver quasi toujours dans un scénario et qui, en tout cas, vont nous permettre de dire à un moment donné ben, quels sont les outils qu'on a développés pour améliorer ces scénarios? Ben, y a une situation initiale. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux gars? Je présume que vous avez tous vu ce film, hein, je ne vous raconte pas la fin. Hein, donc, il va y avoir des événements dans notre scénario. Et j'ai presque envie de dire, les événements, enfin bon, moi, dans ma pratique du jeu de rôle, les événements, c'est ça que je travaille entre mes parties. Je travaille très très peu le contexte, je travaille très très peu les personnages. Généralement, c'est déjà fait. Je leur rajoute parfois un enjeu ou une ligne, un trait, etc. Mais c'est surtout sur les événements que je veux me concentrer dans une campagne entre les parties, parce que c'est ça qui est, à mon avis, intéressant, parce que c'est ça qui va driver le scénario, c'est ça qui va le faire aller de l'avant la fois d'après. Alors, il y a des factions ou des acteurs. Hein, donc, factions, généralement, on va mettre... plusieurs personnes, et puis des acteurs, ben, ce seront généralement plutôt une personne. Dans acteurs, moi, je vous mets le gros pack d'or que vous envoyez contre vos personnages pour faire un combat, parce qu'il faut un combat dans votre jeu de rôle. Sinon, vous ne jouez plus à Donjons & Dragons, vous jouez à Petit Poney. Il y a des lieux et il y a le déroulement, ce fameux fil conducteur qu'on voudrait bien mettre dans son scénario, ou en tout cas celui qu'on s'est fait dans sa tête quand on a écrit son scénario, qu'on a préparé sa partie de jeu de rôle. Vous savez, le genre de truc qui ne résiste pas 15 secondes à la confrontation avec les joueurs. Voilà. Mais pourtant, ça existe dans les scénarios. Bon, mais quand on regarde en fait tout ce qui existe dans les scénarios, en fait, il y a deux éléments qui sont totalement indispensables, qui sont communs à tous les scénarios qui existent et qui ont été écrits depuis la battle map, le one page dungeon, des scénarios pléthoriques, les super grandes campagnes, etc. C'est la situation initiale et le bouleversement de cette situation initiale. C'est vraiment comme dans les romans, comme dans une nouvelle, vous avez une situation de base et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient taper un coup de pied dans la fourmilière, eh bien, il n'y a rien qui bouge. Bon, c'est là qu'on va rentrer dans les théories, je crois. Donc c'est là qu'on va rentrer dans les théories, c'est là où j'ai commencé à faire titiller mon cerveau. Et je me suis dit, bon ben voilà, qu'est-ce qui est intéressant? Comment est-ce qu'on fait un scénario, etc. Et bon, ben, j'ai écrit des billets sur mon blog, etc. Et j'en suis arrivé un peu à ça, de me dire, voilà, il y a trois parties, enfin, trois choses dans l'écriture d'un scénario. Il y a d'abord le design du scénario, ça va être les racines, vous allez comprendre pourquoi après. La structure du scénario, le tronc, et les outils d'écriture qui vont donner le feuillage. Alors, je vous ai mis un peu des designs continus, insulaires, graphiques. Ceux qui lisent mon blog, ils commencent à voir où je veux venir. Les structures linéaires, arborescentes, ça c'est magnifique. Ça, c'est le genre de sujet. Vous voulez que les gens viennent sur votre blog, vous faites ça. Vous écrivez un billet sur structure linéaire, arborescente, bac à sable, etc. Vous êtes sûr d'avoir un maximum de retours. C'est génial. Et puis les outils d'écriture, ben ça justement, c'est un peu les choses nouvelles qu'on va essayer d'amener. Même si, en fait, il faut les trois. Alors, ce serait trop beau de dire on commence par les racines. Sinon, on va commencer par le tronc, sinon je suis plus belle, je suis plus surréaliste, et ça ne va pas. Alors le tronc, c'est quoi? C'est la proposition narrative. Alors Sébastien Desfineaux va vous en parler bien mieux que moi, il en a déjà parlé hier, et puis il y a un magnifique podcast sur Radio Rôliste qui parle de ça. En fait, c'est quoi la proposition narrative? C'est ben, l'histoire qu'on a envie de raconter. Voilà. Quand on part déjà de ça, on comprend un peu plus. Je sais bien que Sébastien, il fronce les sourcils, et je le vois d'ici, parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup plus que ça dans la proposition narrative. Bon, on va dire, on va s'arrêter à ça. Et la structure du scénario, ben, elle doit être adaptée à cette proposition, cette narrative. Si vous avez envie de raconter des aventuriers qui vont dans un donjon pour aller buter le dragon au moins 15e niveau, il faudra m'expliquer pourquoi le dragon il se tient au moins 15e niveau et qu'il ne sort pas dévaster la région, chercher plus de trésors. Mais bon, probablement qu'il s'est endormi, c'est un vil paresseux. Sauf que monsieur nous a bien montré qu'il fallait faire attention parce que si on lui enlève une petite pierre... Manifestement, il n'est plus du tout paresseux à ce moment-là. Hein? Donc, il va falloir adapter cette structure au scénario. Alors bon, on va vite faire le tour un peu des structures. Les structures linéaires, hein, donc on va d'un point A à un point B, on a parfois un peu des embranchements, mais tout le monde sait bien qu'on va arriver au point A, au point B. La structure circulaire, c'est la même, mais à part que, ben, on a tordu le machin pour que le point A égale le point B. On ne raconte pas exactement la même histoire, mais c'est la même structure de scénario, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un scénario qui va nous aider à rester sur le fil, à rester sur les rails. Et ça n'a rien de péjoratif, le railroading. Hein. Hop, alors, on a... Oui. Vous allez voir que je vous mets ici en noir, grosso modo, les qualités de ce genre de structure. En rouge, les choses qui sont un peu plus problématiques. Et ici, je vous mets pourquoi c'est idéal. Dans quel genre de scénario ça marche bien. Mais comme j'ai déjà dépassé 10 minutes de temps, ben, je n'ai pas le temps de vous lire tout ça. Mais vous savez le faire, tout de même. Moi, je suis juste là pour que vous ayez le temps de lire tout ça. Et puis, faire que vous passiez un bon moment pendant cette présentation. Donc, après ça, ben, y a la structure arborescente. La structure arborescente, ben, on part d'un début. Et ce qui est intéressant dans la structure arborescente, c'est qu'en fait, c'est une structure qui permet d'insister sur les choix que font les joueurs. Et donc, ben, pour ça, c'est idéal pour les enquêtes et les intrigues à tiroir. Par contre, pour le maître de jeu, c'est vraiment chiant. Le nombre de « et si »,« et si », »,« et si » qui doit prévoir, et donc le nombre de chemins, enfin, le travail nécessaire à écrire de ce genre de choses, c'est vraiment totalement démesuré si vous avez une structure linéaire, et donc un design linéaire, et donc on verra qu'il y a peut-être d'autres designs plus adaptés à ce genre de structure. Et puis il y a, bon, moi, la structure que je préfère, il y en a d'autres dans la salle qui préfèrent cette structure-là, qui est le bac à sable. Vous parachutez vos joueurs dans un endroit, ils ont un univers autour d'eux, et allez, vas-y, on va découvrir. Oh, tiens, là, c'est marrant. Oh, vous direz bien là, on a le temps de quoi faire, on va là. Et puis on termine là. Et on a fini notre bac à sable, tout le monde avec une super expérience de découverte, mais on ne va pas nécessairement avoir quelque chose qui va insister très fort sur la psyché intérieure de votre personnage, ses traumatismes d'enfance, etc. Alors, les outils d'écriture. Oh, il m'a enlevé l'image, le salaud. Ah ben non, il a mis une image. Alors, la structure convergente. Alors la structure convergente, là on est typiquement dans des scénarios de type jouer l'apocalypse. Vous avez envie de jouer l'apocalypse, mais vous avez envie de montrer tous les points de vue de l'apocalypse. Vous avez envie de montrer la famille qui doit sauver ces jeunes et arriver dans le vault avant que tout ne pète. Vous avez envie de montrer le scientifique qui va montrer pourquoi le super gros orage qui arrive va faire sauter la centrale thermonucléaire et raser la région. Vous avez envie de jouer le valeureux shérif qui essaye de sauver le chien dans l'arbre. Vous avez envie de jouer le Superman qui doit absolument sauver la nation, etc. Vous avez envie de jouer tous ces points de vue parce que ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est cette scène finale. Mais ce qui vous intéresse, c'est que cette scène finale, malgré que vous allez la jouer 6 fois, vous allez la jouer 6 fois avec des points de vue différents, et 6 fois vous allez avoir une expérience de jeu différente. Mais au final, vous aurez vécu une apocalypse dans toute sa beauté parce que vous aurez tout vu. Un peu comme le cinéma hollywoodien aime bien nous le montrer, ou les séries B que ma femme regarde l'après-midi sur la télé. Voilà. Alors, ensuite, la structure en patchwork. Alors, la structure en patchwork, c'est quoi? Vous avez envie de raconter des tas de choses différentes, avec des tas de points de vue différents. Vous avez grosso modo un thème qui est le même et qui va sous-tendre tout ça. Et ben, vous allez utiliser cette structure-là. Pourquoi? Parce que vous allez vivre différentes choses avec ou non des personnages différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez vivre toutes ces différentes tranches de vie. Et donc là, on est typiquement dans films de type Magnolia, où vous allez voir tous ces destins parallèles qui, au final, vont se croiser et suivre le thème général, et ça termine par une pluie avec des grenouilles. Alors, le design. Alors, pourquoi est-ce que le design est important? Ben parce que, suivant la structure que vous allez avoir pour votre scénario, eh bien, vous n'allez pas nécessairement... Enfin, il y a des manières différentes de le transmettre. C'est à ça que ça sert, le design. Sébastien pourrait vous en parler, c'est la théorie de la communication. Moi, je ne connais pas grand-chose, si ce n'est que c'est marrant de stripper là-dessus 5 minutes et de se dire, ah ben finalement, il y a un outil à aller chercher derrière. Ce design, il est quelque part caché. Pourquoi? Ben parce que quand vous écrivez un texte de long en large, ben, il est caché. Si par contre vous avez... on va passer. Alors, 3 grands types de design. Le design linéaire. Donc le design linéaire, c'est quoi? Ben, donc, vous avez les différents éléments de votre scénario. Je ne vous explique pas comment on les identifie, vous aurez ça sur mon blog. Et donc vous mettez tout ça dans un texte, l'un à la suite de l'autre. Alors quels sont les grands... Ce qui est intéressant par rapport à Zizel, c'est que, un, ça vous permet d'insister sur l'ambiance dans votre scénario. Donc, tous les scénarios d'ambiance, vous allez plutôt privilégier un design à tendance plutôt linéaire. Et même chose, si vous avez un scénario avec des relations complexes entre les différents éléments de votre scénario, franchement, c'est ce design-là que vous devez prendre. C'est pour ça que Tristan Lund, il aime bien ça. C'est parce qu'il a des scénarios avec des relations très, très complexes entre des éléments de scénario qui sont parfois, qui se comptent sur les doigts d'une main, hein. Alors, le problème, c'est que comme vous lisez un très très long texte, hein, il y a un temps d'acquisition qui est parfois un peu long, hein, et par contre, et tous les éléments dans votre scénario sont dispersés, et il faut aller chercher un petit peu les éléments à gauche et à droite, parce qu'au moment où vous allez mener, ce qui vous intéresse, c'est que quand votre personnage va arriver en tel lieu, ou rencontrer tel personnage, ou qu'il va leur arriver ça, qu'il va leur tomber sur la tronche, sur le coin de la tronche, eh bien, vous avez besoin d'avoir la vision complète de cet élément. Et donc là, vous aurez peut-être un petit peu de problème à aller la rechercher. Voilà. Le design insulaire, c'est quoi ? Ben donc, c'est, en fait, on va tout séparer. On garde tous les éléments un peu séparés les uns autour des autres, hein, et on va juste dire, oh, ça se relie à peu près comme ça. Voilà. Alors ça, donc c'est typiquement ce qu'on a dans les jeux Apocalypse Dungeon World, puisqu'on vous propose des fronts, des actions, les personnages, les lieux, les descriptions, le casting, etc. Et donc ça, l'avantage, c'est que c'est très très rapide à écrire. On est quasi au niveau du synopsis, hein, je veux dire, à peu de choses près, c'est ce niveau-là. Il y a une facilité d'utilisation quand vous êtes en partie qui est vraiment extraordinaire. Et donc ça, c'est très intéressant comme design quand vous avez des scénarios avec beaucoup d'éléments. Beaucoup de lieux, beaucoup de personnages, etc. Tout ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis alors, vous avez le design insulaire. Oh, c'est pas l'insulaire, c'est le design... comment est-ce que je l'avais déjà appelé ? Le design graphique. Alors, le design graphique, c'est quoi ? On a des visuels qui sont évocateurs, et par contre, ce qu'il faut... Comment dire ? Ce qui est intéressant, c'est que donc, les informations sont très compactes. Au lieu d'avoir une description de 20 lignes pour vous faire une description, vous avez une jolie image. C'est vraiment sympa. Et puis alors, mais par contre, il faut une compréhension graphique de la manière dont tout ça va se mettre ensemble, parce que ben, tout ça est montré de manière visuelle, avec des liens qui expliquent grosso modo les liens, et donc ben, ça donne ce genre de choses. C'est très beau, mais par contre, il y a une difficulté d'approche, parce que ben, suivant la manière dont vous avez vous lancé dans ce design insulaire, vous allez... Votre cerveau va générer une perception du scénario et de l'histoire que vous pouvez en tirer qui va être un peu différente. Par contre, l'avantage, c'est que ça se résume sur une feuille A4 ou A3 devant vous. Et donc, quand vous êtes en partie, c'est vraiment facile. Mais par contre, vous allez être limité par rapport au nombre d'éléments que vous allez pouvoir montrer, par rapport à l'ambiance que vous allez pouvoir passer. Bon, alors, comment est-ce que tout ça se met ensemble ? Donc, on a des designs insulaires qui a plutôt l'aspect didactique, puisque tous les éléments sont bien séparés, hein. Vous avez le design graphique, qui avait assisté plutôt sur l'aspect visuel. Donc, autrement dit, si vous êtes quelqu'un que les aspects visuels échappent totalement et que vous êtes quelqu'un de purement linéaire, vous allez avoir du mal avec cela. Et puis, alors, vous avez le design linéaire qui, lui, ben, lui a le problème de la complexité. Mais c'est ça qu'ils amènent aussi comme force pour votre partie. Si vous êtes quelqu'un de visuel, eh bien, un design graphique, franchement, vous mettez ça devant, même derrière votre écran, ou même pas d'écran, finalement, et paf, vous avez tout. L'idéal, ce serait d'avoir quelque chose qui serait au lieu, mais hic sunt dracones, c'est là que sont les dragons. Ou comment est-ce qu'on fait ce genre de scénario qui va à la fois tirer parti des trucs visuels, montrer et bien séparer tous les éléments de votre scénario, tout en facilitant la connaissance des liens qui régissent tous ces éléments et l'ambiance qui va être créée dans le cadre de votre scénario. Donc là il y a un défi. Défi que je me lance, hein, moi, mais si vous avez aussi envie de le relever, ben franchement, on peut en causer, ça peut être vraiment, vraiment très, très marrant. Alors, j'ai essayé de me dire, ah ben, où est-ce qu'on trouve les différents scénarios ? Comment est-ce que ça, tout ça, ça se met ? Ben, la battle map, c'est clairement quelque chose de plutôt visuel. Le design infographique, hein, comme le truc que je vous ai montré, là, avec les éléments un peu les uns à côté des autres, etc., ben, ça, on est clairement entre le visuel et l'insulaire. Les fronts à la Dungeon World, les bacs à sable sont généralement quelque chose qui est plutôt... insulaire, parce que vous décrivez les lieux, vous décrivez les personnages, vous décrivez les factions, pas toujours d'ailleurs les relations qu'il y a entre eux. Et puis alors, bon, ben voilà, les structures continues, les structures arborescentes se trouvent plutôt du côté complexe, quoique pour moi, la structure arborescente, elle a intérêt à se rapprocher de l'insulaire pour clarifier clairement les choses. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un moment, dans une structure arborescente, les liens entre les différents éléments de votre scénario sont importants, mais par contre aussi, vous allez avoir besoin de pouvoir les décrire et les utiliser, les ramener en jeu quand vous en avez besoin. Alors le feuillage, vite, 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 parce que je vais dépasser le temps. Alors, c'est quoi cette usine? C'est le moteur de votre scénario. Alors ça va permettre de quoi? De poser les enjeux. Ça, c'est un premier outil, les enjeux. Comment est-ce qu'on pose nos enjeux? Aiguiser les accroches. Quand vous amenez un nouveau élément dans votre scénario, un nouveau lieu, un nouveau personnage, un nouvel élément qui arrive, vous savez, le bang, je ne sais plus, c'est dans quel jeu, enfin bon, qui permet de relancer l'action. Ben voilà, ça, on est clairement sur une accroche événementielle. Alors, tournez les clés. Lady Blackbird, ça parle à tout le monde. Ben donc, Lady Blackbird, ils disent, ah ben, quand la clé du traître, quand vous trahissez votre groupe, vous activez la clé, vous gagnez un PEX, et si vous montrez fidèle vis-à-vis au groupe, vous rachetez votre clé, etc. Bon, moi j'ai un peu théorisé là-dessus, généralisé le concept de clé. C'est très intéressant pour montrer comment utiliser dans votre scénario au mieux les éléments que vous avez créés dans votre scénario. Et puis monter les échelles, bah, pourquoi? Parce que dans un jeu de rôle, bah, y a le fameux déroulement là, dont on a parlé, ou faire monter l'attention. Bah, pour ça, on va avoir besoin de ces échelles. Puis je mets entre parenthèses résumé les actions, parce que comme je suis un grand fan de Dungeon World, hein, si vous ne le savez pas, ben maintenant vous devez l'apprendre, ben j'adore ce concept d'action. Pourquoi? Ben parce que ces actions, c'est des trucs qui vous permettent, c'est des petites phrases, mais qui vous disent, ah ben tiens, dans le scénario, ce serait bien d'avoir ça. Et chaque fois que vous mettez une de ces actions, si elle a été bien écrite et bien choisie, etc., dans votre scénario, eh ben ça marche. Alors, les outils d'écriture, on va aller très très vite. Donc les enjeux, c'est ce qui permet de faire à la fois le moteur et le volant de votre scénario. Pourquoi? Ben parce que c'est ce qui va donner envie à vos personnages, à vos joueurs, mais et aussi surtout à leurs personnages, d'aller de l'avant, de découvrir des choses, etc. Donc c'est quelque chose qui, comment dire, ils doivent être clairs, ils doivent être orientés, parce que ben, c'est ça qui va permettre, tantôt on a dit, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'anticiper ce que vont faire les joueurs. Si vous leur posez des enjeux clairs et orientés, normalement vous aurez déjà une meilleure idée de ce qu'ils peuvent faire. Alors, moi, je préfère quand ils sont posés de manière d'une question orientée. Et donc, vous avez un peu l'exemple là qui vous montre ça. J'espère que vous avez eu le temps de le lire. On doit avancer, on y va. Alors, les accroches. Donc, les accroches, c'est chaque fois que vous avez un élément, ben, vous allez avoir envie, puisque vous avez créé un élément, vous avez eu le temps de le faire, vous avez envie qu'ils soient utilisés dans le jeu. L'accroche, elle sert à ça. Elle sert à ce que votre élément, il ne soit pas inutile. Si votre groupe de personnages rencontre un PNJ qui est important dans le cadre d'un bac à sable, n'importe quel, de l'enquête, etc., il faut qu'ils s'y intéressent. Ils ne peuvent pas le laisser à côté, sinon il y a tout qui tombe à terre. Il n'y a pas tout qui tombe à terre, mais votre scénario commence à prendre des rails et à dévier vers les réseaux capillaires et vous ne savez pas très bien vers où. Et donc ça sert à ça, les accroches, c'est que quand vous avez un événement, ben, c'est un bang, il faut absolument que les gens se raccrochent et aient envie de prendre le train en marche. Les clés, ben, donc, c'est ces fameux guides d'utilisation. Clé du labyrinthe, ce lieu est le terrain de chasse du Minotaure. Quand les aventuriers progressent à l'aveuglette, ils ne savent pas où ils vont, donc ils vont vers de nouveaux lieux, des nouveaux éléments que vous avez prévus, présentez-leur un lieu apparemment inconnu. Oh tiens, je vous permets de mettre un nouvel élément. Sinon, montrez-leur que le Minotaure s'est lancé à leur poursuite. Oh, on fait monter l'attention. Voilà, ça sert à ça, de faire des clés. Et vous faites la même chose avec vos PNJ, vous faites la même chose avec des objets, etc. Et puis les échelles qui permettent de faire escalader le récit, de faire avancer les choses. Alors elles peuvent être simplement de style, mon scénario il doit passer par là, par là, par là, par là, mais ils peuvent être aussi, à chaque fois que vos PNJ ramènent la tête d'un orc, le chef du village perd un petit peu d'autorité et vos PNJ deviennent de plus importants dans le village. C'est très très bien dans un bac à sable d'utiliser aussi ce genre d'échelle. Ça peut être aussi au fur et à mesure que vos personnages avancent dans le donjon et gagnent des points pour avoir enfoncé des portes, fait du bruit, machin chose, et bien il y a de plus en plus de montres errants qui leur tombent sur le paletot. Voilà. L'approche multivectorielle. Comme on est dans un truc universitaire, je me suis dit, il faut des grands mots. Alors j'ai mis multivectoriel. Alors, bon, tout ça c'est pour dire, on va y aller très très vite. L'idée c'est que l'intention narrative, elle va vous permettre de mieux écrire les enjeux. Pourquoi ? Parce que vous avez envie de raconter une histoire et donc c'est grâce aux enjeux que vous allez permettre d'orienter l'expérience de jeu, le récit vers... cette intention narrative. Alors, les éléments, il faut les écrire comme des cartes de visite d'ascenseur. Carte de visite d'ascenseur, c'est quoi? C'est un truc de communication. Donc, c'est un truc de communication, grosso modo. Vous montez dans un ascenseur avec avec l'éditeur à qui vous avez envie de refiler votre jeu de rôle, vous avez 30 secondes pour l'accrocher pour qu'en sortant de l'ascenseur, ils disent « D'accord, gamin, tu m'envoies un mail avec ton jeu de rôle, on publie ça dans 6 mois. » Voilà, c'est ça la carte de visite de l'ascenseur. Mais donc, c'est trois lignes qui doivent faire que votre élément, eh ben, il est indispensable. Et une fois que vous allez le mettre en jeu, paf, il va faire « tchac ». Alors, les enjeux et les éléments, D'accord, c'est ça qui va... Une fois que vous avez ça, vous pouvez déterminer quelle est la structure la mieux agencée pour votre scénario. Si vous avez beaucoup d'enjeux, ça veut dire que vous allez avoir normalement beaucoup de liens entre vos éléments, donc vous allez plutôt vous diriger vers quelque chose qui est linéaire. Si vous avez beaucoup d'éléments, eh bien vous allez avoir quelque chose qui va être plutôt insulaire. Et si tout ça doit se mêler plutôt d'une manière très visuelle, très évident, parce que vos enjeux ne sont pas très très complexes, mais ils sont très clairs, et vos éléments, vous avez besoin d'être inspirés au moment où vous êtes sur la... Eh bien, vous allez faire plutôt quelque chose de visuel. C'est ça, cette structure qui va signifier votre... Enfin, qui va déterminer votre design. Pourquoi ? Parce que dans les trois designs que j'ai présentés, il y en a qui sont mieux pour faire ça. Et quand vous avez votre design et vos éléments, eh bien, vous pouvez déterminer quels sont les outils que vous appliquez aux éléments de votre jeu. Et on en arrive à la, normalement, finale. Ta-da ! Et voilà. Et donc, tout ça est résumé, là, dans une belle infographie. J'aime ça, hein, Sébastien. J'arrête de parler de Sébastien, donc quoi que je lui fais du pied. Et donc, voilà. Donc, vous avez ici le design, ici la structure. Tout ça, ça se rencontre. 9 cases, jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous avez des grosses boules pour vous dire, est-ce que le design est adapté à la structure ? Est-ce qu'il est peut-être un petit peu moins pertinent ? Ou est-ce qu'il est carrément inadapté ? Et puis, alors, vous avez les différentes... les différents outils, ceux qui sont en noir sont ceux que vous allez utiliser préférentiellement, ceux sur lesquels vous allez passer votre temps de création. Pourquoi ? Parce que les autres, ils sont au moment du jeu un petit peu moins importants. Alors, je ne vous laisse pas évidemment regarder ça trop, de toute manière ce sera bientôt sur mon blog, je vous promets. Et puis on va en discuter à travers mon blog, sur les forums, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, ceci c'est encore un petit peu expérimental, c'est une vue de l'esprit. Alors je vais faire un parallèle, vous allez faire « Oh, il ose !» C'est un petit peu comme le premier papier d'Einstein, « A Thought Experiment ». Voilà, où il a décrit la relativité, mais sans parler de physique. Juste en disant, eh ben voilà, on va imaginer que. Eh ben ici, c'est, on va imaginer que, quand on utilise le bon design, quand on utilise la bonne structure et qu'on a les bons outils, eh ben on écrit de meilleurs scénarios. Et donc, le prochain défi que je nous fixe, à nous tous, rôlistes, ceux qui ont envie de me suivre, hein, parce que je peux comprendre que ce soit fatigant. Moi-même, je suis fatigué, vous savez, un boulot à temps plein, 5 enfants, le jeu de rôle. Hein, eh ben, on va essayer de faire deux choses. Le Hic Sunt Draconis, est-ce qu'il existe un design de scénario qui soit à la croisée parfaite entre le design linéaire, insulaire et graphique, et qui nous permettrait quelque part d'avoir le meilleur de ces trois mondes? Et on va essayer peut-être, et ça c'est une chouette expérience, de dire, on va se prendre un scénario, juste un truc un peu bateau, facile, genre on va le chercher sur Photoshop, hein, c'est un outil que j'aime bien aussi, et on va tester tout ça sur ce scénario pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Ben maintenant, j'imagine que vous avez peut-être une ou deux questions. Et avant, je fais un peu de pub pour moi. Voilà.
Alors maintenant, pour une ou deux questions.
Alors, Bastien, quand tu parlais des bacs à sable... après, tu parles des scénarios à la Magnolia, et j'ai cru entendre que c'était difficilement compatible, les deux approches. Je sais que personnellement, j'aime bien pourtant les mixer.
Donc c'est pas du tout compatible, puisqu'on est sur des, enfin, oui, on est sur des structures différentes, mais bon, ces structures sont perméables, elles se mélangent. Ce ne sont pas des catégories, fixes, ce n'est pas des boîtes, c'est une taxonomie en fait. Hein. Ça, je peux parler, je suis géologue, moi j'en ai bouffé de la taxonomie. Mais donc, grosso modo, on essaie de déterminer des grandes classes, on se rend bien compte qu'entre tout ça, il y a des mélanges. C'est un peu comme quand je montre le fameux graphique avec les trois types de design et montrer, ben oui, tout ça, ça peut se mélanger. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est pareil avec les structures. Je ne l'ai pas fait parce que, bon, comme il y en avait 5, ça devenait tout de suite graphiquement un petit peu plus compliqué. Mais oui, on peut les mélanger, bien sûr. Tu peux, dans un bac à sable, décider de déclencher différents types d'approches. Tu peux, dans un bac à sable, décider d'avoir quelque chose qui est circulaire. Tu peux très bien décider que... Dans ton bac à sable, les limites de ton bac à sable, tu te souviens, dans le podcast qu'on a enregistré, j'ai beaucoup parlé des limites du bac à sable, et de l'importance d'avoir des limites à son bac à sable, sans quoi ce que les joueurs font dans le bac à sable, pas plutôt le personnage n'a pas d'importance, justement, ben, il peut s'amener qu'en fait, ton bac à sable soit une énorme boucle temporelle. Tu vois, donc tu peux mélanger ces structures-là, mais là, tu as une intention narrative qui, généralement, va aller au-delà du simple scénario. On est plutôt au niveau de la campagne. Maintenant, dans un scénario, oui, on peut mélanger des structures. C'est un beau défi d'écriture aussi derrière, parce que, bah ouais, justement, quelle structure, quel design, quels outils je vais utiliser pour arriver à cette belle intention narrative. Il y a, enfin bon, moi je sais pas, mais moi dans ma vie j'ai des tas de fausses bonnes idées. Hein. Il y en a peut-être plein là-dedans. Hein.
Typiquement, tu as dit que tu aimais beaucoup Dungeon World. La question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que parmi les différentes designs, différentes architectures que tu proposes, il y en a qui sont plus adaptés à certains jeux qu'à d'autres, et est-ce que le jeu peut t'aider à faire des scénarios rapidement et efficacement, ou, enfin, comment est-ce que le jeu auquel tu joues vient perturber toute la théorie? Enfin, perturber, aider, modifier, quoi. Enfin, comment est-ce que ça se fait là-dedans?
Je vais avoir un peu de mal à répondre à ça, parce que depuis maintenant, on va dire grosso modo, hein, depuis que je suis père, ça fait quand même maintenant 11 ans, j'ai arrêté de jouer à des jeux de rôle dont le livre de base dépasse, on va dire, la limite de 100-150 pages. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai plus le temps, Clélie. Je veux dire, comme je disais, hein, j'ai mon boulot, j'ai mes 5 enfants, j'ai mon activité complémentaire, je fais du jeu de rôle, enfin bon, vous imaginez. Hein, je veux dire, j'ai une vie palpitante, souvent un peu fatigante. Mais voilà, donc à l'heure actuelle, les jeux avec lesquels je joue, c'est Tranchons et Tracons, c'est Mini Donjon, je ne sais pas si vous connaissez Mini Donjon dans l'Endure, c'est une petite perle, mais ça vaut vraiment la peine d'être découvert. C'est Dungeon World, bien sûr, bon, d'autres jeux propulsés par l'Apocalypse, Tremulus, etc. Donc oui, je joue avec des jeux qui ont des règles très simples et qui finalement facilite, j'ai envie de dire, l'application de design insulaire ou de design graphique. Sans compter que c'est vrai que dans mes temps perdus, quand je suis trop fatigué pour théoriser, j'aime bien jouer sur mon ordinateur, sur Illustrator ou Photoshop pour faire des jolies choses. Voilà. Donc, je pense que c'est applicable aussi à des jeux qui sont plus lourds en règles. Parce qu'on est sur vraiment des éléments, des briques constitutives, on est sur les